100% Fermentation, le podcast qui vous invite à explorer la diversité et le potentiel des levures et ferments. Cette série d'échanges, proposée par le Safre France, vise à vous faire découvrir l'étendue des possibles en matière de produits et de fabrication, s'appuyant sur les ferments. Il entend aussi à vous aider à en tirer le meilleur parti. Bienvenue dans l'univers de l'infiniment petit, au bénéfice de vos plus grandes réalisations.
Bienvenue dans 100% Fermentation. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la confusion qui existe entre ce qui est communément appelé levure chimique, bien connue des consommateurs qui l'utilisent pour préparer les gâteaux, et la levure boulangère. Pourtant, ce sont deux produits bien distincts. Nous allons voir avec Étienne Maillard et Stéphane Pucelle pourquoi cette appellation commune n'est ni justifiée ni souhaitable. Étienne, bonjour.
Bonjour Marianne, bonjour Stéphane. Étienne Maillard, je travaille dans le groupe Le Saf depuis une trentaine d'années et j'ai eu la chance de pouvoir voyager dans différents pays du monde où je me suis installé, en Asie, au Moyen-Orient, en Europe centrale, et travailler sur différents domaines, le marketing, le développement de nouveaux produits, la qualité, et aujourd'hui dans une fonction de relations extérieures.
Merci Stéphane, bonjour.
Bonjour Marianne, bonjour Étienne.
Je vous laisse vous présenter.
Oui, Stéphane Pucelle, donc je suis en charge du marketing et de la communication pour le marché français, pour Le Saf Panification France. Ça fait plus de 25 ans que je suis dans le groupe et j'ai une expérience sur l'Europe de l'Ouest et puis l'Europe centrale sur la partie marketing.
Merci. Alors, avant toute chose, pourquoi cette confusion entre levure et poudre levante, Étienne ?
Oh, c'est principalement une question de terminologie pour moi, et quelque part aussi une confusion du consommateur qui est un peu plus gênante, mais les deux produits ont vocation à produire du gaz, hein, c'est ce qui fait gonfler la pâte. Par contre, de façon très différente, on va le voir tout à l'heure, mais aussi deux produits qui sont complémentaires et pas opposables, c'est-à-dire que pour faire du pain, vous ne pouvez pas utiliser de la poudre levante, et pour faire de la pâtisserie, on verra, mais on n'arrivera pas non plus à utiliser de la levure, puisque la teneur en sucre est telle que la levure n'arrive plus à s'exprimer.
Et ce ne sont pas non plus du tout les mêmes produits.
Des produits très différents. La poudre levante, en fait, c'est une réaction chimique entre un acide et une base. Je vous invite à tout simplement, avec vos enfants, mettre un morceau de craie et couler dessus du vinaigre. Vous allez voir que ça va faire des bulles, donc produire du gaz, et chauffer. Donc c'est une réaction chimique. La levure est totalement différente. C'est un champignon naturel, végétal, qui va en fait consommer les sucres de la farine, qui sont l'amidon, hein, la poudre blanche, pour la transformer en gaz, mais aussi en arôme et en alcool, en grande partie, et un petit peu en énergie. Mais donc, ce sont deux réactions différentes. D'un côté, vous avez une transformation par la levure et par la poudre levante. Vous avez ce qu'on appelle une réaction. L'une est chimique, l'autre biologique.
Et du coup, avec des cinétiques complètement différentes.
Ah bah, essayez vous-même. Mettez un peu de vinaigre sur votre morceau de craie, vous allez voir qu'immédiatement, vous avez une réaction qui produit des bulles, donc elle est instantanée. Alors, avec le temps, on a fait des poudres levantes qui sont un peu plus techniques, et cette réaction sera déclenchée, en fait, par l'eau, mais aussi par une certaine température. Ça réagit entre 50 et 60 degrés, de façon à ce que le gaz soit produit, non pas dans le pétrissage, quand vous mettez les ingrédients ensemble, mais durant la cuisson, quand la pâte sera capable de retenir ce gaz-là. La levure, c'est tout à fait différent. Elle va consommer vos sucres progressivement et commencer au pétrissage et finir quand on va atteindre 50-55 degrés où la levure meurt, en fait, tout simplement, à cette température-là. Donc, deux réactions très différentes.
Et donc, l'un est un ingrédient et l'autre est un auxiliaire technologique. Quelles conséquences ça peut avoir ?
Ben, ça intervient dans la liste des ingrédients, en fait. Hein, quand vous regardez la liste des ingrédients, vous avez souvent farine, eau et levure apparaît dans l'ordre de la recette, proportionnellement à la quantité qu'on y met. Par contre, la poudre levante est un additif, en fait. Hein, c'est plus exactement un auxiliaire technologique parce qu'il agit durant la fabrication du gâteau, du biscuit, mais n'agit plus sur le produit fini. Donc, c'est ce qu'on appelle un auxiliaire technologique. Ce qui n'est pas du tout dans la même catégorie que les ingrédients.
D'accord. Et donc, nous sommes bien d'accord que chez un boulanger, on peut trouver les deux types d'agents fermentaires.
Oui, on trouve les deux, mais pour deux types d'applications différentes. Le boulanger qui, à la rigueur, ne ferait que du pain, n'a généralement pas de poudre levante. Par contre, s'il est aussi pâtissier, pour toutes ces applications type gâteau, biscuit, cookies, etc., il va utiliser la poudre levante. Puisque on est dans des teneurs en sucre qui sont entre 20 et 40, 45%. Et là, la levure commence très sérieusement à avoir du mal à s'exprimer et à produire son gaz du fait de ce qu'on appelle techniquement la pression osmotique qui est générée par le sucre et quelquefois par le sel dans les recettes où il est très fortement présent.
Donc, ce sont deux produits distincts aux utilisations bien différentes. Pourquoi alors cet amalgame sur l'appellation pose un problème ?
Pour moi, le problème majeur, c'est la confusion pour le consommateur et l'utilisateur, que ce soit un boulanger ou un particulier à la maison. Le problème de confondre l'un et l'autre, c'est qu'ils ne vont pas du tout donner le même résultat selon la recette dans laquelle vous allez le mettre. Donc, si vous mettez de la poudre levante dans du pain, votre pain va plutôt ressembler à une galette qu'à un pain. Et si vous mettez une levure dans un 4 quarts, bah, tout simplement, votre 4 quarts, lui-même, il va ressembler aussi à une galette. Donc, à la fin, l'utilisateur conclura que ou la recette est mauvaise, ou la matière première n'est pas du tout de bonne qualité, ou c'est lui qui est pas doué du tout. Mais dans tous les cas, il va perdre une confiance en lui-même, mais surtout dans la matière première. Alors que il y en a pas une qui est bonne et une qui est mauvaise, mais il y a surtout que chacun a son utilité et on doit bien les distinguer les unes des autres. Alors vous me direz, en France, on a la chance d'avoir une levure qui est plutôt fraîche. Historiquement, on est plutôt sur des levures fraîches. Donc ce sont des cubes qui ressemblent un peu à de la pâte à modeler pour ceux qui n'en ont jamais vu. Relativement peu de levures sèches, c'est principalement chez le particulier que la levure sèche est utilisée. Et c'est justement sur ce format-là, ce petit format, le fait que ce soit à peu près la même taille, que dans certains cas les visuels se ressemblent un petit peu, que les termes sont confusants, levure chimique ou levure, qu'il peut y avoir confusion et généralement c'est pas appréciable, c'est pas apprécié. Donc pour moi le plus gros préjudice il est chez le consommateur. Ensuite on pourrait dire que d'un point de vue scientifique c'est un peu une erreur de langage, hein. Dire levure, levure c'est du vivant, c'est un micro-organisme chimique. Bah non, on peut pas être vivant et chimique. Donc d'un point de vue scientifique c'est pas aussi évident et on transforme la matière alors que de l'autre côté on génère en fait une réaction chimique. Le troisième point, c'est un point un petit peu plus concurrentiel et marketing. Hein. Je dirais, c'est un peu abusif d'utiliser le mot levure sur un produit qui n'en est pas. Pensez au yaourt. Quand on dit du yaourt végétal ou du yaourt animal traditionnel, le législateur s'intéresse beaucoup à séparer l'un de l'autre au jour d'aujourd'hui dans les dénominations. Si on pouvait faire la même chose dans le domaine de la levure, ça éviterait une confusion et ça éviterait aussi quelque part ce que certains pourraient interpréter comme une tromperie.
Alors comment éviter ces écueils, Stéphane ?
Alors, comment éviter ces écueils ? Étienne a parfaitement expliqué les différences entre poudre à lever et levure. Cette différence, elle est souvent difficile à comprendre pour le consommateur et elle est également difficile à comprendre pour le boulanger, pour le professionnel, puisqu'on associe le mot chimique au mot levure. La CSFL, la Chambre syndicale française de la levure, se bat contre ça et a déposé un recours auprès du Conseil d'État pour justement faire interdire cette appellation levure chimique qui est trompeuse pour le consommateur. Cela sème la confusion, ça donne une mauvaise image du produit levure de boulangerie avec cette appellation levure chimique. Et donc la CSFL travaille sur cette appellation poudre à lever. Comment on travaille sur ce sujet ? Il y a une jurisprudence. Il y a une jurisprudence qui est véritablement inscrite par l'Espagne, mais aussi par d'autres pays européens. Mais l'Espagne a fait interdire le mot levure chimique et il faut désormais l'appeler poudre à lever. C'est vraiment le combat de la CSFL pour clarifier les choses.
Étienne ?
Je pense que c'est un très noble combat et il faut le soutenir parce qu'en fait, au-delà de la confusion, ça prête un discours au niveau des scientifiques. La levure est vivante, c'est pas compatible avec le chimique. D'un autre côté, d'un point de vue pratique commercial, ce sont deux produits qui sont complètement différents et doivent être perçus comme tout à fait différents au niveau du consommateur. D'autant qu'il y a une notion de naturalité derrière. Chez beaucoup de gens, la levure est un micro-organisme naturel, historiquement présent dans notre environnement. Alors que c'est beaucoup plus récent le développement de la poudre à lever, hein, puisque c'est la 1800 à 1900. Et ensuite, Oetker, qui a fortement développé ça au tout début du 19e siècle, en emballant ça dans des portions individuelles pour la ménagère. Donc, ce sont deux produits qui sont très différents et qui doivent être bien distingués par le consommateur.
Et je rajouterais que cette confusion est entretenue pour effectivement créer une incompréhension dans l'utilisation des produits. Donc ça, il faut absolument combattre ça. Et la CSFL s'y engage par ces fameux recours.
La dimension naturelle qui n'est pas forcément associée à la levure, est-ce que ce n'est pas aussi un problème vis-à-vis du levain, Stéphane ?
Oui, c'est effectivement un problème que l'on rencontre aussi entre lorsque l'on fait une comparaison entre le levain et la levure. Il y a souvent une comparaison qui est plutôt au bénéfice du levain, malheureusement. Et tout simplement, pourquoi ? Parce que le levain est considéré comme traditionnel dans la profession et la levure est considérée comme produit industriel. Donc, on se bat également pour clarifier les choses et expliquer que la levure est un produit naturel, certes cultivé de manière industrielle, mais cela reste un produit naturel. Donc, encore une fois, on ne veut pas opposer ces deux produits, on veut juste expliquer ce qu'ils sont.
Alors, je veux pas avoir le rôle du professeur, mais il y a peut-être deux choses qui sont intéressantes d'ajouter. Il n'y a pas de levain sans levure. Un levain a des bactéries et a des levures. Donc après, c'est une question de proportion et de nature, mais dans tout levain, pour qu'il soit vivant, il faut aussi qu'il y ait des levures dedans. Et la deuxième chose qui est intéressante, Marianne, dans votre marque, c'est qu'autant ça dérange personne qu'on puisse dire levure chimique, par contre, on n'a pas le droit d'utiliser l'appellation levure naturelle. C'est un petit peu paradoxal d'un point de vue juridique et d'un point de vue dénomination. Mais si on veut utiliser chimique, il faudrait qu'on puisse mettre en face la notion de naturalité. Et c'est justement peut-être l'intention de certains producteurs de poudre à lever que de dire levure avec une connotation naturalité et discrètement derrière l'emballage chimique. Donc il n'y a pas vraiment d'équité dans ces positions et ces décisions.
Pour en revenir aux levures naturelles, on peut choisir sa levure en fonction des process de fabrication, de la composition de la recette ou s'adapter à des contraintes techniques, n'est-ce pas?
La levure chimique va avoir une réaction, c'est la production de gaz en présence d'une base et d'un acide. La levure, ou plus exactement les levures, c'est tout à fait différent. On va choisir une levure qui va résister aux grandes teneurs en sucre dans la recette. On va choisir une levure qui est plus adaptée aux process de surgélation, qui est plus adaptée à des process très longs. On a ressorti dernièrement une levure qui s'appelle la 1895, qui est adaptée aux longues en bac. Et en fait, c'est assez difficile à communiquer, mais il n'existe pas une, mais différents types de levures. Et à chaque boulanger, selon sa recette, selon son process, de choisir celle qui correspond le mieux à ce qu'il veut.
Un autre paramètre important, c'est la praticité. La levure boulangère fraîche, c'est pas si facile à conserver, chez soi notamment. Il faut mettre des volumes importants dans ses recettes. Alors que le sachet de poudre à lever, c'est assez pratique, ça se garde longtemps. C'est un a priori ou bien...
Non, vous pouvez consommer de la poudre à lever plutôt que de prendre du lait liquide, sachant que la levure, en fait, se conserve quand même plusieurs semaines dans un frigo, donc c'est pas la levure fraîche, hein, donc c'est pas si difficile que ça à mettre en œuvre. Maintenant, il existe aussi des levures sèches qui, elles, se conservent deux ans à température ambiante, qui sont donc qui ont tout à fait les mêmes caractéristiques de conservation et de disponibilité. C'est à peu près le même format, d'ailleurs, on se retrouve sur des sachets de 8 à 12 grammes à peu près. Et conservation à température ambiante, on ouvre, on l'utilise sur une dose. C'est assez pratique. Alors, c'est pas forcément ce qui est le plus répandu en France, mais ça existe.
Et en termes de nutrition santé, il y a des différences notables également, Étienne?
La fermentation, en fait, va amener une modification de la digestibilité. Ça va améliorer la digestibilité du pain, ce que ne fera pas une simple production de gaz. Et il y a peut-être une deuxième chose aussi, c'est que plus la fermentation est longue, plus vous allez, entre guillemets, produire des acides, en particulier avec les levains. Et ces acides vont aider à la biodisponibilité et au transfert en fait du système intestinal vers le sang d'un certain nombre de molécules qui sont super intéressantes dans le pain en fait. Et le fait de simplement faire gonfler sans aider à la biodisponibilité de ces micro-éléments, c'est un petit peu dommage et c'est un des gros avantages du mystère de la fermentation.
Un autre point différenciant, en tout cas il me semble, c'est le fait que la levure naturelle n'est pas uniquement dédiée à la boulangerie, Stéphane.
Oui, alors je vais rebondir sur ce que disait Étienne. Les mystères de la fermentation sont magiques et apportent un certain nombre de perspectives et d'applications différentes, puisque le groupe Le Saf travaille sur énormément d'applications liées aux produits levures, comme la brasserie, l'œnologie, le monde végétal, le monde animal et la nutrition humaine.
Étienne, Stéphane, vous nous avez éclairé pendant ce podcast sur les différences qui existent entre la levure naturelle boulangère et la poudre à lever. Et vous avez surtout attiré l'attention sur la difficulté posée par la confusion d'appellations. Cela n'aide pas l'utilisateur à tirer la meilleure expérience de l'un ou l'autre de ces agents fermentaires. Mais on a vu aussi que des démarches sont en cours pour aider le consommateur à faire la différence. Encore une fois, merci à vous deux, Étienne, Stéphane.
Merci Marianne, à très bientôt Stéphane.
Merci à vous deux, à très bientôt.
À très bientôt pour un nouvel épisode de 100% Fermentation. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. À très bientôt.
100% Fermentation, le podcast qui vous invite à explorer la diversité et le potentiel des levures et ferments, vous est proposé par les équipes de Le Safre France. N'hésitez pas à leur soumettre vos idées de sujets et questions en direct ou via nos réseaux sociaux.